En ce 3 janvier, la liturgie nous propose, c'est libre, de célébrer le Saint Nom de Jésus. Et alors ça tombe absolument prodigieusement bien, si je puis dire, parce que les lectures corroborent tout à fait l'esprit de cette célébration. Je vais y revenir un peu. Alors, la première lecture, qui est effectivement, je trouve, une hymne au nom de Jésus, c'est-à-dire au Fils. Voilà. Vous savez que lui, Jésus, est juste. Donc, il y a une grâce dans ce nom de Jésus qui veut dire Dieu sauvant. Comme vous le savez peut-être, Yasha en hébreu, sauvé. Et c'est aussi une hymne à la filiation, à la filiation divine. Je ne sais plus trop par quel bout prendre, parce qu'il y a tellement de choses, cette révélation de cet amour de Dieu qui nous adopte. Donc évidemment, peut-être que pour nous, qui la plupart d'entre nous a un père, et bon, sans vouloir faire gender, hein, c'est pas du tout mon esprit, mais nous avons un géniteur, nous avons quelqu'un qui nous a engendré à la vie, mais le vrai géniteur, c'est le père, c'est lui vraiment notre père, genitor. En latin, il y a aussi ce mot-là, hein, qui veut vraiment dire celui qui engendre la vie. Et au fond, les enfants sont confiés aux parents, mais ils viennent pas de plus haut qu'eux, dans le sens où ils n'existaient pas avant qu'ils soient charnellement créés. Mais ils existaient dans la pensée de Dieu, néanmoins. Voilà, il n'y a pas une existence avant l'existence, hein, mais nous sommes dans la pensée de Dieu de toute éternité. Et donc c'est assez bouleversant de faire cette expérience de la paternité. J'imagine que pour des gens qui n'ont pas eu de père ou qui l'ont peu connu, c'est une expérience assez bouleversante. Voilà. Donc cet amour du père qui a envoyé son fils pour nous dire « je désire t'adopter ». Alors, il y a quelque chose, on ne va pas tout commenter, sinon on sera là encore demain, mais donc nous avons déjà entendu ce passage, hein, il y a quelques jours, probablement le jour de Noël, ou peut-être le 1er janvier, il y a 2 jours, je ne sais plus très bien. Alors, il y a quand même un truc bizarre, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Bon, ça, c'est le miracle de l'incarnation, de la nativité. On ne s'arrêtera jamais suffisamment sur cette vérité. Si nous avions conscience d'être fils et filles de Dieu, nous cesserions immédiatement de commettre aucun péché. Ben voilà, maintenant, la réalité, c'est que nous sortons de cette vérité tellement facilement. Et alors, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors ça, c'est assez subtil, parce que qu'est-ce que vous voulez être de plus qu'enfant de Dieu, quoi ? On va te dire, attends, il y a encore un étage au-dessus. Alors non, il n'y a pas d'étage au-dessus. Mais ce n'est pas parce que l'on est quelque chose que c'est manifeste. On reproche souvent aux chrétiens de ne pas rayonner suffisamment. Voilà, manifestation. Et donc, il y a cette idée de... donc, le verbe, c'est phanéro. Bon, ça donne aussi épiphanie. Hein. Et vous avez remarqué peut-être que ce mot revient très souvent dans cette lecture. Enfin, il vient au moins 2 ou 3 fois. Et donc il nous est dit, lorsque sera manifesté notre filiation divine. Donc quand les autres le verront, se diront « Ah, lui, c'est un fils de Dieu, ça se voit tout de suite », nous serons semblables à Jésus. C'est très compact. Hein, comme... Alors, c'est quoi être semblable à Jésus? Ben, vous voyez, c'est intéressant d'aller regarder ce verbe phanéro chez saint Jean. En Jean 1-2, 1 Jean 1-2, premier épître, donc un peu plus haut que ce que nous lisons, « Car la vie a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Ça veut dire que c'est ça qui sera manifesté, cette... C'est incroyable parce que une oraison de la messe nous faisait demander de nous sommes de sa race, quoi. Nous serons divinisés. C'est pas une blague, hein. C'est pas un truc pour rigoler. En Jean, Cana, vous vous souvenez peut-être les noces de Cana, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Pourtant, tout le monde connaissait Jésus. Ah oui, tu es Jésus. Mais il n'avait pas encore été manifesté. Voilà, donc la manifestation, c'est ça. C'est cette évidence pour les autres et entre soi de se reconnaître immédiatement pour ce que nous sommes en vérité. Donc, il y a une différence entre être quelque chose et être et la manifestation de cet être. Voilà. Et tout ça n'est possible qu'à condition que nous demeurions en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Voyez. Alors, demeurer en lui, c'est demeurer aussi dans la parole, donc c'est demeurer dans la parole de Dieu, donc c'est demeurer aussi dans l'écriture. Et au fond, vous pourriez faire l'expérience des jours où vous n'allez pas très bien, physiquement, moralement, que sais-je. Eh bien, la lecture d'une page d'évangile, d'un bout d'épître, si vraiment vous la lisez de tout votre cœur, vous apercevez qu'il se passe quelque chose. La parole purifie. Ça n'a rien d'extraordinaire, puisque celui qui demeure en Dieu ne pêche pas. Donc voilà, toute cette... il faudrait y passer très longtemps là-dessus. Et dans l'évangile, justement, ça tombe vachement bien quand même, hein, parce que nous avons Jésus qui est manifesté. Alors, il y a la manifestation de Jésus, la désignation de Jésus par Jean-Baptiste, hein, avec cette chose extraordinaire où Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas ». C'est ton cousin quand même, hein, t'es pas au courant. « Je ne le connaissais pas ». C'est-à-dire, je le connaissais, mais je n'avais pas compris qui c'était, quoi. Vous voyez, cette double dimension de connaître profondément, de connaître par révélation, de connaître par illumination. Et c'est en fait ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, puisqu'il dit « Celui qui m'a envoyé », hein, c'est ça qu'on a dans l'Évangile, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est le Père qui l'a envoyé, hein, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, celui-là baptise dans l'Esprit Saint, c'est lui le Fils de Dieu. Révélation trinitaire. Le Père lui dit, tu verras l'Esprit descendre sur mon Fils. Voilà. Et en fait, c'est à ça que nous sommes tous appelés, à voir l'Esprit descendre sur chacun de nous, pourvu que nous puissions le voir, pourvu que nous puissions le recevoir, cet esprit aussi. Pour finir, je reviens un peu sur le texte, sur le début de l'évangile, voici l'agneau de Dieu. Alors, agneau, c'est en syriaque, bon, le syriaque c'est l'araméen chrétien, hein. Donc le syriaque c'est une langue sémitique qui n'a pas de voyelle, Il y a ce qu'on appelle les materlectionnistes, c'est-à-dire qu'il y a quelques consonnes qui servaient de voyelles, mais il n'y a pas de voyelles, comme en arabe, comme en hébreu, etc. Donc on a rajouté des signes diacritiques pour savoir comment prononcer. Alors, agneau, ce sont les mêmes consonnes que parole. Donc, dans le texte syriaque, si vous enlevez les signes diacritiques qu'on a ajoutés ultérieurement, eh bien, vous pouvez lire « Voici la parole de Dieu qui enlève le péché du monde » ou bien « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux sont vrais. Les deux sont vrais grammaticalement, il n'y a rien à dire. Alors, on va dire « Oui, mais l'agneau, ça a du sens, parce que dans l'Ancien Testament, bien sûr, je dis pas qu'il y en a un plus vrai que l'autre. Hein. Je dis juste que Jean-Baptiste a très bien pu dire « Voici la parole de Dieu ». Amer, Amra. C'est le même mot, mais pas les mêmes voyelles. Voici la parole de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez, la parole de Dieu enlève le péché du monde. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est l'agneau qui le porte sur lui. Et à chaque fois que nous lisons la parole, il prend sur nous nos péchés et nous libère et nous illumine et manifeste quelque chose de la filiation qui est en nous, mais qui n'est pas encore révélé totalement, manifesté totalement, parce que le péché fait du brouillard, parfois parce que nous n'y croyons pas. Hein. Nous n'y croyons pas, on a envie de dire, oh, enfin, tu m'as pas regardé avec les péchés que je fais, ça fait 50 ans que je fais les mêmes, j'y arriverai jamais, ça c'est un signe d'orgueil, j'y arriverai jamais. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'il n'est pas question d'y arriver soi-même. C'est Dieu qui l'a obtenu. L'enjeu, c'est est-ce que je crois que la petite Thérèse dit, si j'avais tous les péchés du monde sur la conscience, voilà. Quand on est dans un état comme ça d'affaissement, enfin de se dire, mais c'est pas possible, encore je me suis fait avoir, eh bien de penser à ça, cette humilité de dire, oui, Seigneur, je veux. Je veux que soit manifestée cette filiation divine en moi. Parce que ce n'est pas mes péchés à côté de ce que tu as fait toi, c'est une blague, mes péchés. Tu jetais les péchés dans l'amour de Dieu, à une fraction de seconde où ils sont arrivés dans l'amour de Dieu et ils n'existent plus. Ah. Donc, voilà. Mais c'est un combat de croire cela. Donc voilà, ces très beaux textes qui sont à méditer sans arrêt. Hein. Et puis cette conscience de la parole de Dieu, de ce nom Jésus, le prénom Jésus, il y a des grâces qui sont attachées spéciales à ce prénom. Grâces spéciales qui sont attachées quand on dit ce prénom, et il nous purifie, il nous rappelle la présence de Jésus qui est là, au milieu de nous, à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, tout en nous laissant libre. Hein. L'autre jour, j'entendais une émission qui disait, ben oui. On sait que Dieu est là, mais à deux pas de nous, pour nous laisser libres. Mais non, il n'est pas à deux pas de nous, il est à l'intérieur, mais il nous laisse libres quand même. Voilà. Il y a je pense que c'est un peu une méconnaissance sur les deux natures du Christ, à mon avis. Enfin, du Fils de Dieu. Je pense que là, il y a. Oui, il y a eu deux volontés en Jésus. Et sa volonté humaine a fait sienne. La volonté divine. Mais pour nous, c'est pareil, si vous voulez. Dieu est bien présent. Il peut souffrir en nous quand nous souffrons, quand nous sommes martyrisés, quand nous péchons aussi. C'est pas la même souffrance. Mais voilà. Mais Dieu est bien en nous spirituellement. Son esprit est bien en nous. La Trinité repose bien en nous. C'est la grâce du baptême. Hein. C'est pas une blague. Hein. Voilà. Donc cette filiation est là. Faisons tout ce que nous pouvons pour lui laisser le champ libre et que la parole nous illumine et nourrisse en nous ce qui a besoin d'être nourri. C'est en nous nourrissant de cette parole, de Jésus, de l'Eucharistie, de tous les sacrements, que progressivement nous chassons le mal. Parfois, on ne peut pas attaquer le mal de pleine face. C'est pas possible. on se désespère. Mais ne regardons pas le mal et cultivons le bien. Et au bout d'un moment, le bien prendra le dessus sur le mal. Voyez, souvent, c'est comme ça que nous devons faire. Au lieu de regarder le mal qui nous désespère, cultivons le bien, la parole de Dieu, relevons-nous à chaque chute, etc. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. Amen.